Merci, Monsieur le Conseiller fédéral, Madame la Conseillère d'État, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse et des médias de Suisse. Effectivement, si j'ai accepté de participer à cette conférence de presse, c'est certainement avant tout, comme vous le savez, si ces deux lois, la loi sur les étrangers et la loi sur l'asile, sont de compétence et de rang fédéral, l'application de ces lois, c'est-à-dire le terrain et la vie quotidienne de l'application de ces lois, se passe avant tout dans les cantons. C'est la raison pour laquelle aussi les cantons ont été largement entendus dans le cadre de la consultation qui a précédé l'élaboration finale de ce texte. Et c'est la raison pour laquelle aussi, avec ma collègue conseillère d'État Keller Souter, nous sommes présents aujourd'hui. Cette loi qui, d'ailleurs, a été très largement acceptée par le Parlement et surtout peut-être aussi par les trois partis gouvernementaux qui sont ici présents, en particulier aussi par mon parti, le Parti démocrate chrétien, bien que bien sûr, vous savez aussi, il y a certains membres de notre parti qui ne partagent pas toujours l'opinion de l'ensemble du parti. Je m'exprime ici avant tout comme chef du département des finances, des institutions et de la sécurité du canton du Valais. Vous savez que notre canton est essentiellement voué au tourisme, à l'industrie, à l'agriculture. Si je cite l'agriculture, même l'agriculture n'occupe plus que le moins du 4% de nos produits intérieurs bruts, c'est surtout parce que l'agriculture comme le tourisme sont des branches à activité saisonnière très forte et qui sont aussi très gourmandes en personnel saisonnier. C'est la raison pour laquelle aussi, canton frontalier, canton avec une configuration géographique particulière, le Valais est fortement concerné par l'immigration et à ce titre a besoin d'une réglementation qui soit cohérente et d'une réglementation adaptée à ses réalités quotidiennes. La révision proposée en ce qui concerne la loi sur les étrangers répond aux attentes des cantons et du Valais en particulier. Elle fait preuve, cette révision, bien sûr, de plus de rigueur, mais plus de rigueur qui était nécessaire, tout en offrant des améliorations sensibles pour les populations migrantes. Il convient quand même de rappeler ici que la nouvelle loi fédérale sur les étrangers ne s'applique qu'aux ressortissants d'autres pays que l'Union européenne ou l'ILE, pays que nous appelons les États tiers. Je souhaite commencer par dire quelques mots sur l'intégration, parce que le plus de ce nouveau texte a trait à l'intégration. C'est un des points très importants de cette révision. Le Parlement a clairement reconnu qu'il s'agit d'une tâche, l'intégration, faisant partie intégrante de la politique des migrations. C'est d'ailleurs pourquoi les dispositions légales relatives à cette intégration figurent dans la nouvelle loi sur les étrangers, notamment à l'article 53, qui donne finalement une obligation de mener une politique d'intégration active aux trois niveaux de notre architecture politique, la Confédération, le canton et les communes. Et le canton du Valais, comme pratiquement tous les cantons de Suisse, mais aussi de plus en plus de communes, et c'est réjouissant, développe une politique active d'intégration. Et dans cette nouvelle loi, l'encouragement qui était fait dans l'ancienne loi ou dans la loi encore en vigueur devient quasiment une obligation de se préoccuper d'une façon active d'une intégration des étrangers. Mais la loi demande également très clairement aux migrants d'accomplir leur part d'effort pour réussir cette intégration. Il faut la bonne volonté des deux côtés. Il faut que les collectivités publiques et les autorités politiques créent l'environnement le plus à même d'accueillir et d'intégrer, mais il faut aussi que ceux qui doivent être intégrés montrent de la bonne volonté, et notamment les exigences d'apprentissage d'une langue nationale ou tout simplement la connaissance du mode de vie suisse ou encore le respect des fondements de notre état de droit, ce sont les exigences minimums que l'on peut demander à des personnes qui décident de s'intégrer dans notre tissu social. Parmi les dispositions nouvelles, signalons qu'une intégration réussie donne un droit de séjour aux conjoints séparés après 3 ans de mariage déjà. Vous voyez qu'il n'y a pas seulement que des mesures, entre guillemets, perçues comme disciplinaires, mais il y a aussi des plus. La loi prévoit de prendre en considération le degré d'intégration pour un octroi anticipé du permis d'établissement. Ainsi, la loi récompense en quelque sorte les personnes qui démontrent concrètement leur volonté de vouloir bien s'adapter à notre mode de vie, à notre tissu social. Il ne s'agit pas ici de faire de chaque étranger un petit Suisse. Hein, ce n'est pas une fabrique à petit Suisse que l'on veut, mais c'est un peu à l'image du Pulse. Il faut que ces personnes gardent leur culture, leur originalité, la fierté aussi de leurs origines. Mais c'est comme les pièces d'un Pulse. Il y a, chaque pièce a une couleur et une forme différente. Mais ce qui fait la vraie valeur du Pulse, c'est la possibilité finalement de les mettre ensemble et de pouvoir faire une vie sociale cohérente et harmonieuse. Par contre, le manque d'intégration sera aussi pris en considération lors de l'examen d'un renvoi de Suisse ou d'une interdiction d'entrée en Suisse. Je viens peut-être maintenant aux dispositions relatives à l'entrée et au séjour en Suisse. Certes, le système d'admission actuel est maintenu dans la révision et seuls les travailleurs qualifiés ou les spécialistes peuvent bénéficier d'une autorisation de séjour. Les conditions de regroupement familial ne sont pas modifiées fondamentalement. Par contre, leur groupement familial est ouvert aux bénéficiaires de permis de séjour de courte durée, est ouvert également aux étudiants. Et il faut considérer ici, en tout cas c'est l'interprétation qu'en font les cantons et la réalité du terrain, il faut considérer que les dispositions exigeant leur groupement familial dans un certain délai, il faut considérer ces mesures comme des mesures positives destinées à favoriser l'intégration. On a en effet trop souvent dû constater que les jeunes arrivant en Suisse de nombreuses années après leurs parents et surtout après avoir effectué l'essentiel de leur scolarité et formation dans leur pays d'origine rencontrent ensuite chez nous des difficultés d'adaptation. Pour lutter contre les entrées illégales, la loi nouvelle introduit des sanctions contre les passeurs, ce qui est tout à fait justifié et qui devrait permettre de réduire un véritable trafic d'êtres humains. Elle prévoit également des sanctions contre les compagnies aériennes qui transportent des personnes sans document d'identité. C'est aussi un moyen certainement très efficace pour limiter l'entrée illégale dans notre pays. Quelques mots maintenant, puisque surtout la presse romande en a fait état ces derniers temps, quelques mots des mariages de complaisance ou dits de complaisance. La gestion de l'état civil et du contrôle des étrangers dépendent d'un même service dans mon département. Les faits démontrent que le mariage est devenu un moyen fréquemment utilisé pour éluder les dispositions de la loi sur les étrangers, aux fins notamment d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Ce phénomène s'est amplifié ces dernières années de manière inquiétante. Non seulement les officiers d'état civil ou le service des étrangers le constatent dans leurs activités quotidiennes, mais aussi les ambassades suisses à l'étranger qui alertent régulièrement la Confédération à ce sujet. Il est d'ailleurs choquant de se prévaloir de la liberté constitutionnelle du mariage pour tout simplement bénéficier d'un droit de séjourner ou de demeurer en Suisse. Grande différence d'âge, le record dans notre canton est un fiancé de 1937 et d'une fiancée de 1982. Des fiancés suisses psychologiquement vulnérables, des fiancés parlant des langues différentes, ou encore des fiancés qui arrivent à la cérémonie séparément et qui quittent la cérémonie aussi séparément. Et les dispositions ordinaires du droit des étrangers ne suffisent plus à lutter avec efficacité contre ce phénomène des mariages arrangés par des tiers, des mariages contre rétribution financière ou de tout autre mariage de complaisance. L'introduction d'une disposition dans le Code civil permettant à l'officier d'état civil de refuser un mariage de complaisance évident, disposition prévoyant de plus une sanction pénale, doit être saluée positivement et constituera un moyen supplémentaire pour lutter contre ces mariages de complaisance. C'est aussi une responsabilité des autorités de veiller à conserver sa vraie valeur à cette institution. J'en viens maintenant à quelques dispositions de la loi d'asile. La révision ne touche absolument pas à la volonté de protéger les personnes réellement persécutées. Cette volonté demeure intégralement et la protection prévue en application des conventions de Genève continuera d'être accordée dans son entier à tous ceux qui en ont réellement besoin. C'est aussi la volonté des cantons et la volonté des autorités qui, quotidiennement, dans le terrain, doivent prendre des décisions. Par contre, la loi nouvelle cherche à lutter contre les abus qui demeure encore trop fréquent. L'extension de l'exclusion de l'aide sociale à tous les requérants d'asile déboutés et la possibilité de rendre des décisions de non-entrée en matière à des personnes refusant de décliner leur identité sont deux mesures justifiées, efficaces et qui contribueront à diminuer l'attractivité de notre pays pour des requérants sans véritable motif d'asile. La nouvelle loi, par contre, il faut peut-être aussi en causer, étend la faculté de régler les cas les plus délicats par l'octroi d'une autorisation de séjour à titre humanitaire. En effet, le séjour pourra être réglé à tous les stades de la procédure d'asile, et même s'il est définitivement close, ça c'est l'aspect nouveau, à condition toutefois que le séjour ait duré au moins 5 ans. Ça, c'est un instrument qui n'existait pas, qui n'existe pas, et qui sera certainement bienvenu par les autorités cantonales qui pourront régler des cas personnels, individuels, particulièrement dramatiques au niveau humanitaire. Bien sûr, si cette possibilité ne doit pas devenir un oreiller de paresse pour les autorités chargées du renvoi, il n'en demeure pas moins que son introduction dans la loi est une très bonne chose. Les autorités cantonales, en tout cas, le voient de cette manière. Enfin, le durcissement des mesures de contrainte par la prolongation de la durée possible de détention répond avant tout à une demande de tous les cantons. Malgré les efforts communs des autorités fédérales et des autorités cantonales, les services chargés d'organiser les départs sont trop souvent confrontés à l'absence de collaboration des intéressés qui dissimulent leur véritable identité et n'effectuent aucune démarche pour fournir ou obtenir les documents nécessaires à leur renvoi. Souvent également, les procédures d'identification auprès des représentations étrangères nécessitent de longues recherches dans leur pays d'origine, et l'expérience a démontré que dans certains cas, la durée maximale actuelle de détention est insuffisante. C'est donc une approche extrêmement pragmatique que les cantons en général soutiennent dans la révision de ces deux objets. Je me tiens bien sûr à votre disposition pour toutes questions éventuelles. Merci.